Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Laetitia Olivier, la fondatrice de Bigood. On est là aujourd'hui, ce matin, pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément très réjouissant, l'épuisement professionnel. Mais c'est un sujet de société, c'est un sujet important. Qui d'entre vous n'a jamais dit « je suis sous l'eau, je touche par terre, à terre, je suis débordée, voilà, j'en peux plus ». Alors, soit vous le dites de façon épisodique, soit c'est récurrent et on s'en rend même plus compte. Il faut savoir qu'on a quand même 2,5 millions de Français qui, a priori, seraient en situation d'épuisement professionnel. 44% des managers sont en détresse psychologique. Et c'est un coût pour la société, puisque c'est entre 2 à 3 milliards d'euros d'arrêt de travail, hein, qui est un coût pour nous tous et pour l'entreprise. Alors, chez Bigood, nous, on accompagne des managers, des collaborateurs pour les aider à prendre soin d'eux, selon la définition de l'OMS, c'est-à-dire un bien-être à la fois physique et mental, donc les 3 C, corps, cœur, cerveau. Et nous aussi, parmi nos clients qui nous rejoignent pour nos programmes de 3 mois, en fait, on a à peu près 20% des gens qui sont dits hyperactifs saturés, c'est-à-dire qui ne sont pas loin de la ligne rouge, 22% qui sont équilibrés stressés, donc qui sont bien, mais qui commencent à être un peu sous pression. Alors, c'est la pression de l'entreprise ou c'est la pression qu'ils se mettent. Ce qui laisse quand même 58% des gens qui ont envie d'entretenir leur capital vitalité. Et c'est ça qui est important, c'est la prévention. Donc, ce matin, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Jaworski du groupe Thales, Pierre-Marie Arguarche du groupe Française des Jeux et Delphine Rigal qui vont nous parler avec leur regard croisé d'experts de ce qu'est l'épuisement professionnel et comment en sortir. Alors, première question, Fabienne, vous êtes la médecin de la bande, médecin coordinateur du groupe Thales. C'est quoi la définition du burn-out ou de l'épuisement professionnel? Parce que je crois savoir qu'il n'y a pas vraiment de définition scientifique. Et quels sont les signaux finalement d'alerte qui font qu'on dit là, je ne suis pas du bon côté de la force?
Oui, donc, comme vous savez, il y a de multiples définitions qu'on voit un peu partout. Au niveau psychiatrique, ce n'est pas reconnu comme une pathologie à part. On va parler de syndrome. Il n'y a pas un signe spécifique qui va pouvoir dire c'est un burn-out, comme dans le cas de la dépression, où il y a des critères bien précis pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, on peut décrire une centaine de symptômes. Je ne veux pas vous les citer. Là, alors moi, la définition que j'aime bien et que je retiens parmi l'ensemble des définitions qu'on a, c'est que burn-out se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans cette notion de prolonger dans des situations de travail exigeantes au plan émotionnel. Et je crois que c'est ces points-là qui sont importants, c'est que c'est exigeant au plan émotionnel et la durée, parce que la durée fait qu'on n'a pas ces moments de récupération qui nous permettent sur le plan physiologique de repartir. Donc, on se retrouve dans une situation comme une batterie qui est vidée.
C'est chronique, ouais, en fait, c'est la répétition de la situation.
Tout à fait, et vraiment dans la durée. Tu posais la question par rapport aux symptômes. Je dirais qu'effectivement, il y a 3 niveaux. J'aime bien parler de couleurs repérées. Est-ce qu'on est en zone verte, orange et rouge? Donc, quand on parle en zone rouge, c'est la fameuse triade, vous avez dû entendre parler de Maslach, où on va parler d'épuisement émotionnel, de cynisme vis-à-vis de travail et diminution de l'accomplissement personnel au travail. Mais quand on arrive à ce stade-là, alors moi j'ai travaillé tout le temps en unité de pathologie professionnelle, j'ai accompagné une situation tout le temps au travail, quand on arrive à ce stade-là, la récupération est très difficile. Et la prévention, c'est de repérer au plus vite ces signes faibles dès qu'on est en phase d'alerte verte et orange. Donc, ça peut être, il y a différentes dimensions, hein. Ça peut être effectivement des signes physiques qui ont une fatigue qu'on a du mal à récupérer du sommeil, des troubles musculo-squelettiques, donc des tensions qu'on peut ressentir. En fait, on a chacun des symptômes différents selon le talon d'Achille. Et moi, c'est ce que je dis à mes salariés, c'est repérer, apprenez à vous connaître au niveau de votre corps et écouter votre corps. Au premier signe de talon d'Achille, on est certain que ça va être plus musculaire, ça va être plutôt neurologique avec des vertiges, des mains de tête, voilà. Et ensuite, on voit que dans la phase orange, on a une irritabilité qui commence à apparaître avec des difficultés de récupération. Même lorsqu'on part en vacances, on a l'impression qu'on a tout de suite perdu le bénéfice. Et là, après, on arrive dans le dernier stade. Donc, et c'est surtout là où repérer avant, pas arriver à
J'imagine que le contexte sanitaire des deux dernières années a dû accentuer et rajouter des facteurs. On peut avoir des facteurs aussi personnels, oui, pas seulement liés au travail. Mais ce contexte sanitaire a dû aggraver la situation.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que, comme vous disiez, cet impact, ces exigences sur le plan émotionnel, où effectivement, souvent on le voit, les décompensations se font dans une période de recherche de travail importante, mais également une problématique personnelle qui peut se rajouter. Et là, on est vraiment épuisé. Et si on doit définir aussi les différents stades, souvent on ne se rend pas compte quand on arrive à cet épuisement.
Delphine, vous avez une longue carrière dans un grand groupe, maman de 3 enfants aussi, petite charge de travail et charge mentale, avec des métiers passionnants dans le marketing, avec, j'imagine, des situations parfois complexes, compliquées, avec des projets qui se sont ajoutés. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez traversé cette période d'épuisement professionnel et comment vous avez détecté ou pas ces signes que Fabienne décrit?
Oui, alors j'ai connu des moments d'essoufflement et je pense que j'en connais sûrement encore parce que, comme vous dites, Laetitia, j'ai la chance de faire un métier qui est en constante évolution et dans un secteur ultra dynamique. En plus, j'ai un mode de fonctionnement qui consomme beaucoup d'énergie. Je suis vraiment je suis à fond et donc j'ai des moments où je sens que la réserve s'épuise ou du moins diminue. Et donc, je pense que j'en connaîtrai encore quand on n'arrive pas à renouveler l'énergie suffisamment vite. Mais j'ai aussi connu un vrai moment d'épuisement. Un vrai épuisement, c'était il y a quelques années, c'était en 2018 précisément, où en février, lors de vacances au ski, j'ai un accident et je me romps les ligaments croisés. C'était pas
douloureux.
Ouais, c'est douloureux, c'est relativement banal, mais c'est super douloureux. Donc j'écope de 2 fois 15 jours d'arrêt parce qu'en fait je ne pouvais plus me voir. Le temps de trouver une attelle, de démarrer la rééducation, donc tout ça je le prends sur le plan un peu technique. Et puis surtout, j'étais de facto arrêtée, mais avec les moyens modernes, à jouer son rôle. Et donc, j'ai repris avec un aménagement du travail, donc avec du télétravail avant l'heure. Je prenais taxi pour me déplacer. J'ai repris. Ça, c'était fin mars. Fin mai, j'ai un problème au pied. Là, tout d'un coup, c'est le pied. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus poser mon pied. Donc, en termes techniques, c'était un névro-mingurskine, donc infiltration, obligé de porter des chaussures de
moche,
orthopédique, super moche. Voilà, mais je continue. Et je commence à décrire à ressentir pardon, ce que vous décriviez. Donc des troubles musculo-squelettiques, une énorme fatigue. J'avais des réveils, je me réveillais la nuit, pour tout ça. J'ai rien senti en fait. Ça montait graduellement jusqu'en. Donc j'ai pris des vacances l'été, mais à fond les ballons, pays Qatar, je me suis fait une bonne rééducation pour le genou, on grimpe, on va. Voilà. La rentrée, grosse adrénaline, donc pareil, même pas mal, arrive octobre, et là j'ai commencé à avoir tous les jours des maux de tête. Et donc je descendais à l'infirmerie. Parce que j'avais pas forcément d'anti-inflammatoire sous la main. Et c'est là où ça s'est accéléré. Un jour, je ne peux plus me lever. Un jour, pour le coup, j'avais rééduqué mon genou, donc il n'y avait pas de.
C'est pas physique, c'était pas le genou qui ne marchait pas.
Non. Et là, c'est. Alors, après, quand on se renseigne, on lit ça dans la littérature, mais c'est. Le corps ne répond plus, je ne peux plus me lever.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui s'est passé, c'est que c'est mon médecin du travail qui était formidable parce qu'elle m'a vu, elle m'a repéré venir régulièrement à l'infirmerie. Et donc, c'est elle qui m'a finalement confrontée la première en faisant la liste, parce que là, ça paraît, même quand je fais la liste, je me dis, c'est pas possible, comment tu as pu accumuler tous ces signaux sans rien voir, sans rien faire. Et quand elle m'a mis devant la liste, je me dis, mais il vous faut quoi de plus? Ça serait plus compliqué que je vous annonce très grave maladie, parce que c'était un peu, je me dis, mais je ne peux pas m'arrêter, en fait, il y a la réunion, machin, chan, enfin, c'est
une bonne raison.
Et donc, elle m'a vraiment mis face au fait que j'allais probablement pas laisser à mon corps le temps de véritablement se réparer. J'avais banalisé, j'avais continué, quoi, malgré tout. Et donc, j'ai été arrêtée. Et là, pour le coup, j'ai vraiment coupé. C'est-à-dire, j'ai eu 15 jours d'arrêt où j'ai vraiment appelé mon équipe, mon manager. J'étais encore à l'époque dans le mini. Hein. Enfin, avec le recul, je me dis tout va bien, je ne comprends pas, le corps ne répond plus, la tête va bien, le corps ne répond pas, mais je vais. Enfin, effectivement, 15 jours d'arrêt, une semaine de vacances ensuite, et je suis revenue. Et je pense qu'à la lecture de ce que vous nous expliquez sur les différentes couleurs, le vert, j'étais dans l'orange, hein, j'étais dans un orange bien mûr, et probablement pas passé dans le rouge. Et c'est ce qui fait que, en fait, il a suffi de s'arrêter et,
au bon moment. Pierre-Marie, vous êtes directeur de l'expérience collaborateur et de la transformation dans le groupe Française des Jeux. C'est plus de 2000 personnes, donc autant de situations personnelles, psychologiques, professionnelles différentes. Comment l'entreprise aide à repérer ces signes-là pour justement éviter que chacun se mette dans le orange ou dans le rouge, en fait.
Je crois que le mot-clé, c'est la prévention. Ce qui vient d'être évoqué le mot. Et la philosophie que j'ai, c'est que ça répond à ce que vous venez de dire. On ne se prête pas, mais on voit les autres. Et donc, plus on va aider les RH, les managers, un certain nombre de personnes à avoir de l'écoute active, s'intéresser aux autres, en plus, c'est bien parce que ça correspond à ma philosophie RH de relations humaines et de travail en commun. Donc, on a plusieurs axes qu'on a poussé, aussi bien pour les RH que pour les managers, par exemple. On a formé nos managers, alors, un manager leader, un manager, c'est pas pour décider, un manager performer, un manager pour passer la ligne d'arrivée. Et on a formé tous nos managers aux fondamentaux du coaching. Et une des forces du coaching, c'est être dans le questionnement et s'intéresser à l'autre. C'est décrypter la communication non verbale.
Excusez-moi, je suis désolé de vous interrompre. Et on ne vous entend pas très bien, les personnes qui sont dans le canapé. Donc, en fait, votre agilité, ce serait peut-être de changer de place à chaque fois que vous prenez la parole. Je suis désolé d'intervenir. En fait, on a un mot sur deux déjà de la personne qui était médecin. Ou voilà, vous switchez. Madame Olivier, puis la personne qui vient d'intervenir, vous entendez très bien. Voilà, d'accord. Excusez-moi, hein, je suis désolé.
Prochain micro, on va voir si ça fonctionne mieux.
Je reprends.
Merci. En plus, on a un store qui se déclenche.
La lumière,
ouais. Mais ça fait un peu de bruit. Désolé.
Et donc, je parlais du modèle managérial de FDJ, manager coach, manager leader, manager de performance. Et former près de 400 managers aux fondamentaux du coaching, c'est les former à l'écoute active et donc à s'intéresser à l'autre. Je parlais de la prévention. On ne se voit pas soi-même. Et je parle en connaissance de cause. Je ne me vois pas moi-même. Laetitia me dit, Pierre-Marie, attention, je vois des choses. C'est comme ça. En revanche, je suis manager. Moi, j'ai 150 collaborateurs dans mon équipe. Et des managers ont leurs équipes. Si on les forme tous à l'écoute active et à voir les signes de la communication non verbale, déjà, on peut avoir une prise en compte des choses. J'ai formé tous mes RH aux fondamentaux du coaching. Les RH, même ceux qui ne sont pas en accompagnement des managers. J'ai formé les gens de la paye, tous ceux qui touchent au RH de près ou de loin sont formés à ces bases. Et je crois que la solution de la prévention passe par le regard de l'autre, s'intéresser à l'autre. Comme en plus, c'est une valeur universelle fondamentale de relations humaines, de qualité de vie en commun, c'est décrypter. Moi, je suis désolé, mais quand on dit bonjour à ses collaborateurs le matin, moi, rien que par le ton du bonjour, rien que par le regard de la personne à qui je dis bonjour, j'ai déjà des informations. Si la personne a passé une bonne nuit, je vois tout de suite si un de mes collaborateurs, et d'ailleurs, je les connais tellement bien au bout d'un moment que je sais ceux qui ont des insomnies, je sais ceux qui ont des soucis, et puis il y a ceux qui viennent se confier. Parce que quand vous intéressez vos collaborateurs, ils viennent vous raconter leurs petits soucis, parce que tout interagit, vie privée, vie professionnelle. Cette séparation qui a été décrétée il y a de nombreuses années, qu'on est là au boulot et on n'a pas à savoir ce qui se passe dans sa vie privée, mais c'est une erreur fondamentale et je suis très heureux qu'enfin aujourd'hui, ça soit compris dans l'entreprise, que tout interagit sur tout. La vie pro interagit sur la vie perso interagit sur la vie pro et qu'on doit faire attention aux autres.
Je titille quand même un peu parce qu'à entendre ça, on a l'impression que l'entreprise est hyper bienveillante, sauf que l'épuisement professionnel vient aussi de la charge de travail, d'injonctions contradictoires. Prends soin de toi, mais si tu pouvais finir ce dossier avant le matin 20h, ce serait vachement bien. Comment le manager peut être en écoute active, mais il a aussi ses exigences de performance. Donc, est-ce que c'est un peu le titre de notre table ronde, c'est performance et bien-être, performance et équilibre. Est-ce que c'est une équation impossible ou est-ce que voilà, comment on gère cette année?
Moi, j'aime bien mettre derrière le mot performance durable. Performance durable.
Performance sereine.
Renouvelable. Et on peut très bien. J'ai été dans des groupes où j'avais moins de puissance de feu ou de moyens pour pouvoir mettre en œuvre ce que je viens de décrire. Et on peut très bien broyer son personnel pendant 6 mois, 1 an pour obtenir une performance, mais après, c'est fini. On n'aura aucun résultat. Et c'est là qu'il y a l'épuisement. Et on sait qu'il y a des entreprises où c'est marche ou crève. Plus on veut travailler dans la durée, plus on doit apprendre au manager le feedback managérial. Le questionnement sur « tu me demandes ça, quel est le délai ?» Parce qu'on veut toujours tous bien faire. Le manager, souvent, oublie de donner le délai. Donc, moi, j'essaie d'apprendre dans les formations managériales, c'est qu'il faut toujours dire dans quel délai on veut quelque chose. Et si c'est une urgence, faire la part des choses entre les urgences et les importances. J'apprends dans les formations qu'il n'y a d'urgence que médicale. Pourquoi dans le monde du travail, il faudrait qu'on s'épuise au travail sur des sujets? Nous, à la Française des Jeux, on n'avait qu'une privatisation. Pendant 1 an et demi, plusieurs centaines de personnes ont bossé comme des malades. Mais c'était 1 an et demi. Il fallait tenir dans la durée. C'est une belle action que de mettre en œuvre une privatisation qui, en plus, a été réussie de manière exceptionnelle. Mais toujours avoir le réflexe, ce qu'on veut, dans quel délai, à la place de quoi, qu'est-ce que je peux déporter dans ce que j'ai à faire pour pouvoir faire cette action-là. Ça revient dans le débat, la relation, le manager, le collaborateur. Et l'exemple vient d'en haut. C'est-à-dire que le sujet, si on n'arrive pas à obtenir cela de la gouvernance, des membres intersociaux, des membres de direction, vous n'arriverez pas à mettre en place en dessous.
Alors c'est vrai que les signaux sont parfois difficiles à titre personnel à détecter, à titre professionnel dans le cadre de l'entreprise aussi. Chez Thales, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire cette prévention, pour essayer d'accompagner les managers, mais l'ensemble des collaborateurs à ces signaux? Parce que finalement, on attend souvent d'être dans le mur. C'est-à-dire que soit j'agis parce que bah, là, le corps dit stop, soit l'entreprise agit parce qu'elle s'aperçoit que c'est vraiment pas bien, alors on sait qu'il faut anticiper, prévenir. Concrètement, vous mettez quoi en place comme action?
Alors, comme action, donc normalement, ouais. On n'a pas attendu le Covid hein, pour pouvoir accompagner les managers qui ont un parcours avant leur poste managérial pour justement pouvoir repérer les signaux faibles chez les collaborateurs. Et peut-être le plus du Covid, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'organisation qui est apparue, qui est le smart working. Et toute la difficulté, c'est comment un manager va pouvoir repérer ses signaux faibles avec des équipes à distance, à domicile, comment il va réussir à faire le lien entre ces différentes équipes avec une partie qui est à domicile, une partie au travail. Donc, en fait, il y a tout un travail d'accompagnement qui a été fait autour de cette notion de smart working où, ensemble, le manager et les collaborateurs ont construit une organisation concernant le nombre de jours de télétravail, à quel moment les équipes devaient se réunir, à quel moment le manager pouvait prendre ce temps qu'il va prendre avec chaque collaborateur à part pour pouvoir interroger sur son vécu. Et peut-être la nouveauté, ce que vous avez très bien décrit, c'est que finalement, le Covid, on va dire le côté positif, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus séparer la vie personnelle de la vie professionnelle. Et tout d'un coup, il y a eu aussi cette prise en compte par nos managers. Donc, effectivement, en tant que service de santé au travail, on a pu voir cette évolution qui s'est faite avant le Covid et après Covid, ou même là, spontanément, on a maintenant des managers qui nous contactent parce qu'ils sont inquiets pour leurs collaborateurs, ce que je n'avais, en tout cas, j'ai jamais vu avec un taux de fréquence aussi important.
Donc, il y a l'aspect organisationnelle, en fait, oui. Des process et de... Mais il y a aussi une question de culture d'entreprise. Oui. Est-ce que vous faites des conférences, des ateliers, des... Voilà, concrètement, est-ce qu'il y a des conseils ou des apports, des apprentissages qui leur permettent aussi d'avoir des bons réflexes pour ménager la monture, finalement. Essayer de prendre soin physiquement et mentalement de soi, au-delà de l'accompagnement organisationnel de l'entreprise.
Moi, je pense qu'on n'est pas aussi avancé que, là, que dans votre entreprise. Alors, on se cesse des jeux. On a un accord qui a été dit au travail. Alors, maintenant, on va parler de qualité de vie et conditions
de travail. C'est la semaine de la QVT, la semaine prochaine.
Tout à fait. Oui, et effectivement, on a un socle commun où, côté RH, on doit s'assurer qu'un certain nombre de dispositifs sont respectés, notamment la mise en place de groupes d'expression entre les collaborateurs pour faire remonter des problématiques de terrain. Le fait, voilà, il y a un certain nombre de choses autour de la qualité de vie, donc effectivement des programmes de santé publique. Et puis après, il y a nous, en tant que service de santé au travail, où on rappelle régulièrement l'ensemble des acteurs de l'entreprise, notamment le rôle primordial du manager. Alors, en même temps, on se dit que ce n'est pas au manager de tout porter, donc il y a une responsabilité aussi de l'entreprise d'accompagner le manager. Et c'est vrai que dans les services, parfois, il y a quelques difficultés. Souvent, auprès du RH, c'est une alerte par rapport au manager en disant effectivement comment accompagner au mieux le manager pour que lui-même soit en capacité de prendre soin de lui pour pouvoir aussi prendre soin de ses collaborateurs. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment, je trouve, le métier de manager, c'est l'un des plus compliqués.
Je dis souvent que c'est celui qui est entre le marteau et l'enclume, en plus. Oui. Donc, c'est celui qui doit donner de l'énergie, mais quand il n'en a plus, c'est compliqué à insuffler. Delphine, après vos épisodes d'épuisement, concrètement, qu'est-ce que vous avez changé peut-être dans votre façon de travailler? Est-ce que l'entreprise vous a accompagné? Quelles solutions avez-vous mises en place?
Oui, alors à l'époque de la crise, c'est vrai que j'ai pu compter sur dans la sphère professionnelle, sur l'écoute du médecin du travail, un service aussi ressources, relations humaines vraiment très présent, sur mon équipe aussi et mes collègues que j'ai vu inquiets en fait, et qui renvoyaient vraiment cette envie que les choses reviennent comme avant. Et aussi la sphère familiale, on le disait, tout est aujourd'hui mélangé, et c'est vrai que le soutien familial a été évidemment clé dans cette période. Donc, passé la crise, en fait, qu'est-ce qui reste? Donc, j'avais rapidement mis en place, en fait, et de manière pas forcément organisé sous forme de programme, mais je me suis remise au sport et ça fait un bien fou. Rapidement aussi, j'ai senti que ce qui me manquait énormément, c'était de pouvoir aller promener dans la nature. Enfin, j'ai finalement être constamment fermée face à un écran. Enfin, c'est des choses qui vont paraître sûrement assez faciles et naïves, mais c'est vrai que ça a bien fonctionné. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était l'entreprise aussi nous a proposé de nous former à la méditation. Et donc ça, c'est aussi une ressource qu'on découvre, qui est pour le coup là, toujours présente, et à laquelle je peux faire appel. Voilà, on parlait de coaching tout à l'heure, c'est aussi un programme qui se développe dans le groupe L'Oréal, où les managers peuvent être aussi formés à la posture coach. On a aussi développe de plus en plus le co-développement, qui est aussi une manière vraiment de faire appel au collectif pour avancer, résoudre des problèmes. Donc je pense que j'ai pioché dans différentes solutions. Et à l'époque, je ne connaissais pas Bigood, puisque Bigood est arrivé quelques années après. Et c'est là où j'ai pu prendre conscience qu'en fait, il y avait une quantité, une panoplie incroyable, en fait, de solutions et qu'il faut trouver, les siennes. En fait, et moi, ce que j'ai réussi à mettre en place, et je vais vous voler le titre de votre livre, des rendez-vous avec moi-même. Et ça, c'est finalement la chose qui fonctionne le mieux, c'est que j'ai bloqué dans mon agenda des rendez-vous. Ils ont un code couleur particulier, et c'est soit parce que je dois partir plus tôt parce que j'ai piscine, où on a aussi mis en place des méditations de groupe, donc soit dans le cadre de Bigood, mais aussi ça fait des petits, on fait ça aussi en équipe, entre collègues. Donc c'est vraiment de garder du temps, en fait, de bloquer du temps pour se prioriser.
C'est si facile que ça, parce que
non.
Moi, je le vois bien avec tous les clients qui nous jouent dans les programmes. En fait, la première des difficultés, c'est de s'autoriser ce temps-là. Parce
ouais.
que c'est souvent le slot qui saute assez facilement, parce que soit on n'a pas envie de montrer que j'ai piscine, soit aussi montrer ou découvrir, lever le voile sur ses fragilités ou ses vulnérabilités. Parfois, en termes de posture de manager, ça aussi, il faut changer un peu les mentalités. Mais très souvent, la vraie difficulté, c'est de se dire, oui, ben, si je prends cette demi-heure de récupération, comme tous les sportifs de haut niveau, ça va me permettre d'être mieux derrière et d'être plus performant plutôt que de m'essouffler sans temps de récupération. Mais j'observe quand même que c'est compliqué, même en mettant en rouge dans l'agenda, de ne pas faire sauter ce...
C'est pas facile, mais moi, je pense que j'ai réussi à mettre en place certains rituels. Alors, je ne fais pas tout très bien et il y a encore certains...
Pas de la pression.
Non, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Mais en revanche, il y a des... Ça y est, il y a des petits rituels du vendredi soir, du samedi matin, des habitudes qui sont là. Et je ne négocie plus avec moi-même. Je suis mon pire ennemi dans ces cas-là parce que je vais toujours... Enfin, je vais avoir tendance à me dire « Ah, mais mince, il y avait... » Parce qu'évidemment, la to-do list, elle est sans fin. Exactement. Et voilà, en plus, ça a été... La vie de famille aussi à côté, mais et j'ai des années. J'ai mon mari aussi qui commence quand il voit que je sens que je commence à bon. Finalement, je vais peut-être pas aller. Si, c'est important. J'ai même mes enfants qui vont me dire dis donc, maman, t'avais pas méditation là, parce qu'en fait, ils sentent un mieux. Et c'est pareil dans en équipe. En fait, on se rend compte que mettre en place des petits rituels, ne serait-ce qu'un rituel d'inclusion en début de réunion. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être long, mais pour s'assurer que tout le monde est disponible dans une bonne qualité de présence, ça fait un peu bizarre au départ quand l'équipe n'a pas l'habitude. Et puis finalement,
ça fait du bien.
Et donc oui, ce n'est pas évident. Mais en fait, quand on y goûte et qu'on se rend compte qu'on est en fait finalement plus concentré, plus efficace, plus heureux aussi, c'est un cercle vertueux qui se met en place.
Donc, c'est un mix en fait, de solutions que vous êtes allé chercher vous-même et de solutions apportées par l'entreprise
aussi. Ouais.
Pierre-Marie, chez FDJ, j'ai vu que le chiffre récent de votre FDJ Scope, c'est 94% des salariés qui pensent que l'entreprise prend soin d'eux. Voilà, c'est très fort. Alors, vous faites quoi pour prendre soin d'eux?
Dans mes rêves, les plus fous, si on m'avait dit qu'un jour, 94% de 2500 personnes puissent être engagées, motivées, et satisfait de la manière avec laquelle on les accompagne, j'aurais signé tout de suite. Le tout, c'est que ça prend du temps et que ça soit dans la durée. Je crois que ce qui plaît aux collaborateurs, moi j'aime bien les petits rues font les grands boulots. Il y a des tas de choses qu'on propose. Bien sûr, il y a des salles de sport, donc on peut faire du sport, tous ceux qui sont... il y a le sport. J'ai relancé récemment la chorale. Chanter, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le bien-être au travail. On a la chance d'être dans une entreprise FDJ qui a des valeurs de solidarité, où on a énormément de collaborateurs qui font du mécénat de compétences, qui participent à des actions solidaires. Faire du bien aux autres, ça fait du bien à soi. C'est une conviction qui marche bien. On a mis en place donc aussi, bien sûr, là, il va y avoir la semaine de la QVT, on a des conférences sur la nutrition, on a des conférences. J'aime bien aussi les conférences qu'on fait plus en plus sur les neurosciences, qui permettent de découvrir que le corps humain, le cerveau, il a une extension dans tout le corps humain. Et donc, dans l'approche Be Good, cœur, corps, cerveau, je trouve qu'avoir un axe sur tous les sujets, moi, c'est dans une conférence sur la nutrition que j'ai entendu quelque chose qui m'a plu pour soigner les migraines, qui sont des migraines de stress. C'est-à-dire que moi, quand je suis en vacances, je n'ai pas de migraine. Et mon médecin, je lui dis, c'est bizarre quand même. Quand je suis en vacances, je n'ai pas de migraine. Mais il dit, mais monsieur Arouache, vous êtes allergique au travail. Arrêtez de travailler, vous verrez, il n'y aura plus de problème. Bon, je ne pouvais pas m'arrêter de travailler. Et donc, la nutrition aussi est un sujet extrêmement important. Vous le travaillez avec Be Good. Donc, j'aime bien, moi, le côté très large de la proposition. Certains vont rentrer par le cerveau, d'autres vont rentrer par le physique, le corps, le cœur, la solidarité, etc. Et tous ces axes sont complémentaires avec quelque chose qui marche bien aussi chez nous, c'est une assistance, donc un FDJ formé avec une société d'assurance. Un collaborateur qui a un souci peut appeler cette plateforme. Et il aura trois types d'assistance. Une assistance psychologique, donc stress boulot ou stress perso. Et stress perso, je vais prendre un exemple qui est peu utilisé en entreprise, le deuil. Tous nos collaborateurs sont touchés à un moment ou à un autre par un deuil d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant. L'accompagnement psychologique du deuil est quelque chose que personne n'évoque. Or, ça fait partie, pour moi, la mort fait partie de la vie, parce que le deuil fait partie de la vie. On est tous confrontés à ça. D'ailleurs, tout ce qui est mort sur les médias, on voit en permanence des assassinats, des morts, etc. Mais dans la vraie vie, on cache quelque chose qui fait partie de notre vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd son papa, on perd sa maman. Et qu'est-ce qui se passe et comment la personne réagit? Et je trouve que dans cette assistance psychologique, on peut même accompagner dans cette situation-là. Après, il y a l'assistance sociale. Donc, on a un souci, un enfant qui ne va pas bien à l'école, je cherche une autre institution, je veux le changer. C'est passé ci, c'est passé ça, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? Ou alors, tout simplement, assistance sociale. Occupons-nous de nos parents et de nos grands-parents. Comment je trouve un EHPAD? À quel moment je peux trouver une solution pour mettre mon papa, ma maman dans, on voit de plus en plus, moi, je crois, les aidants familiaux, je crois à cette solidarité familiale. Et le dernier point qui a très bien marché pendant le confinement, c'est l'assistance médicale, c'est-à-dire un rendez-vous médical avec un médecin et qui vous fixe une ordonnance, ce que vous pouvez imprimer sur votre imprimante. Et donc, toutes ces mesures contribuent à réaliser quelque chose qui fait que les collaborateurs peuvent choisir parmi une panoplie de solutions pour les aider dans cette situation.
Donc, vous n'avez aucune situation d'épuisement professionnel chez FDJ?
Bien sûr que si. Malgré tout ça, nous en avons parce que on ne se voit pas soi-même, parce que malgré tout ça, il y a des stakhanovistes du travail qui croient que de toute façon, leur vie sur Terre, d'ailleurs, j'en accompagne qui part en retraite.
Ah oui, la peur de la retraite.
Mais c'est comme un saut dans un gouffre. C'est-à-dire, après au moment de la retraite, je quitte mon entreprise, je vais mourir. Je n'ai plus de raison d'être. Je n'ai plus ma carte de visite qui dit que je suis ci ou que je suis ça. Et donc, j'aime bien que les gens se présentent en tant que personne et non en tant que titre de fonction. En tant que personne, je suis quoi dans ma vie professionnelle? Et les personnes croient à tort que leur raison de vivre, c'est le titre qu'ils ont sur leur carte de visite. Mais c'est quoi ça? C'est juste un moment, un passage. On a été jeune, on a changé plusieurs fois d'entreprise. Et quel est le projet de vie à partir de 63, 64, 65? Bon, heureusement, on a une espérance de vie 85, 87. J'ai plus les âges en tête. Plus important pour les femmes que pour les hommes.
Mais c'est en train de se...
On a une vingtaine d'années après un départ en retraite. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? L'interaction entre les générations, moi, je crois beaucoup au rôle des grands-parents par rapport aux enfants, aux petits-enfants, à l'accompagnement des familles. Tout ça, c'est des sujets super passionnants. Malheureusement, malgré tout ce qu'on vient de dire, on a encore des personnes qui croient que ce qui compte, c'est 100% boulot et on ne parle pas du sujet vie privée. Et un jour, il peut arriver à pépin. Du coup, le seul moyen, c'est le regard des autres, je trouve, parce que c'est ça qui peut alerter et dire attention, j'en parle là, mais je vous dis, moi-même, j'ai du mal à me regarder. C'est souvent mon épouse qui me dit « Gaffe, attention, il se passe ci. » Un enfant, un collègue qui me dit « Pierre-Marie, tu devrais lever le pied, je te sens tendu. » En réunion, la dernière réunion, franchement, tu n'étais pas écoutant comme d'habitude. Et pourtant, j'ai toute cette conviction au fond de moi-même parce que j'étais fatigué, parce que j'ai eu des injonctions contradictoires. C'est la vraie vie de l'entreprise. Donc, avoir le conseil des autres, c'est aussi une des solutions.
Et accepter, parce que souvent, on est dans le déni. Donc, on dit, mais non, tu racontes n'importe quoi, ça va être un passage, c'est pas du tout la réalité. Il y a aussi ce que vous disiez sur la culture et l'exemplarité. Dans un groupe très gros d'ingénieurs, Thalès, est-ce que la culture managériale et les instances au plus haut on montre l'exemple, finalement, et insuffle cette culture de la... bien-être, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas de l'équilibre, on va dire. Comment ça se... Est-ce que le Covid a révélé des situations où on s'est dit, là, finalement, il faut qu'on aille un peu plus loin, parce que l'équilibre de vie, c'est un facteur de performance, en fait, c'est un actif pour l'entreprise.
Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que le côté peut-être positif du Covid, c'est que finalement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus séparer vie personnelle et vie professionnelle. Tout à l'heure, vous parliez d'un certain nombre de soutiens qu'on pouvait mettre en place. Donc, on travaille beaucoup avec Malakoff Humanis. Donc, on a également tout un dispositif aussi de soutien psychologique, de soutien pour les aidants, pour la parentalité, parce qu'effectivement, cette période a révélé. Et il y a une prise de conscience hein, des managers, effectivement, des parties plus hautes. Hein. C'est vrai que pour pouvoir impulser cette politique de prévention, il faut que ça parte d'en haut. Et je pense que peut-être le Covid a fait prendre conscience à nos dirigeants d'en haut hein, l'importance de mettre en place un certain nombre de mesures si on veut que nos collaborateurs tiennent. On a vécu 2 ans d'incertitude où nos collaborateurs ont été fortement impactés. Et on le sent, moi je le sens, mes salariés sont fatigués, on arrive à un étage d'épuisement sans aller jusqu'au burn-out. Et là, il y a une prise de conscience avec des propositions d'aide que j'avais pas constaté jusqu'à maintenant.
Vous le constatez aussi, vous êtes dans un groupement d'autres médecins du travail. Est-ce que la situation évolue? Parce que les dernières études montrent que quand même, l'épuisement professionnel continue d'augmenter, malgré une prise de conscience qui, elle aussi, s'est un peu accélérée. Comment ça se passe?
Alors, est-ce qu'on peut se poser aussi la question, est-ce qu'on en parle plus facilement? Voilà, il y a aussi. Et alors, nous, je reviens encore au Covid, je suis désolée, on vient de sortir de Covid et j'arrête pas de vous parler du Covid. Et alors, nous, voilà, Thalès, on a un regroupement de 23 médecins, 70 infirmiers, on a beaucoup participé lors de la reprise de l'activité avec des formations de sensibilisation, on a vacciné, on a fait des tests, donc on s'est mis en visibilité au niveau des collaborateurs. Donc spontanément, les collaborateurs nous contactent beaucoup plus facilement. Tout à l'heure, je parlais des managers. Les managers, plus facilement, vont nous alerter sur une situation. Donc, on a ce sentiment que les gens apprennent à être plus sensibles aux autres, à regarder l'autre.
Et en parler.
Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, parce que je parlais tout à l'heure du travail hybride. Mais il y a une prise de conscience. Ben justement, comme je ne vois pas tous les jours mon collègue, ou voilà, le manager ne voit pas tous les jours ses collaborateurs, ben quand il le voit, il essaye de faire attention à ce qui a pu changer de la connaissance qu'il a de son collaborateur. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a davantage de regard et d'écoute.
Le télétravail, c'est à la fois l'avantage peut-être de gagner du temps, d'être moins dans les transports, etc. Mais effectivement, de créer une situation, voire une certaine solitude pour certains. Donc, privilégier les moments physiques comme étant des vrais moments collectifs, oui, d'échange et d'écoute, de relations. Exactement. Delphine, télétravail, pas télétravail, est-ce que ça a été un ingrédient aussi d'amélioration de votre équipe?
Oui, alors c'est vrai que dans le groupe L'Oréal, la charte de télétravail avait été mise en place bien avant le Covid. Et moi, j'en faisais déjà à l'époque, mais à raison d'un jour, voilà, c'était... Donc là, c'est vrai qu'en tant que manager, on a la possibilité, en tant que manager et collaborateur d'ailleurs, de poser jusqu'à 2 jours de télétravail, et c'est vrai que ça permet de s'économiser quand on a beaucoup de transport, et ça permet aussi de planifier des journées un peu différemment et de privilégier quand on est sur site la rencontre ou des réunions de création qui vont nécessiter de toucher, de sentir des choses. Donc c'est vrai que le télétravail, c'est indéniablement un ingrédient. On parlait du dispositif et de tout ce qu'on peut mettre en place. Un des ingrédients, parce que ça permet effectivement, si on n'est pas loin de la piscine, puisqu'on prend l'exemple de la piscine, ça permet d'y aller aussi plus facilement. Après, je vous rejoins, docteur. C'est vrai que ça nécessite de mettre en place des rituels en tant qu'équipe pour se dire, quand on se réunit, quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi et on a été accompagné en tant que groupe sur l'hybride pour se dire, on essaie de mettre en place the best of both worlds, à la fois tout ce qu'on peut faire et tout ce qui est facilité en ligne, et puis tout ce qu'on aime à faire quand on se retrouve. Et c'est vrai que la convivialité, le fait de se retrouver pour passer des moments qui ne sont pas des moments de production à proprement parler, c'est clé dans l'engagement d'une équipe, et puis aussi toutes les
il y a beaucoup de choses qui passent par l'informel et de, il y a beaucoup de
Teams pour ça, c'est pas forcément le meilleur.
Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler comme ça dans un couloir. Donc c'est vrai que le télétravail a joué évidemment, mais c'est qu'un ingrédient.
Oui. Ça a peut-être ajouté de la pression au manager qui ne savait pas forcément manager à distance.
Nous, on travaille aujourd'hui sur non plus le télétravail, parce que c'est une réussite, et ça marche, et ça permet d'économiser du transport, ça permet d'aller au psy, et c'est acquis, et tant mieux, parce que ce n'était pas le cas avant la crise. On travaille sur le réenchantement de la présence.
Faire revenir.
On fait des enquêtes, justement, et on a des collaborateurs qui disent, ils ont raison, pourquoi venir pour télétravailler au bureau, tant que je travaille chez moi. Quelle est la raison qui fait que je dois revenir sur site? La raison, elle est simple. C'est le collectif. Depuis que les entreprises existent, le collectif est plus performant que la personne seule. Bien sûr, un start-upper tout seul peut faire des choses brillantes. Mais on a 100 fois les exemples en entreprise. La sortie d'un nouveau produit, un projet sur 3, 6, 9 mois où une équipe pluridisciplinaire va contribuer à la réussite. Et la richesse de la créativité et l'innovation, c'est le rebond, c'est des espaces de créativité qu'on a tous mis en place dans nos entreprises. Et nous, on en a un qu'on appelle la ZAP, et qui est l'endroit où on fait de la créativité, où on va lancer un nouveau produit, où on va. Au lieu d'avoir un seul endroit, on a décidé de le faire à tous les étages, des micro-endroits non réservables à l'avance. Hier, j'étais avec ma DRH. Quand ce lieu sera mis en place. Bon, allez, on va se mettre là, on a un sujet à régler, parce qu'on me pose cette question. Moi, le DRH, je me pose beaucoup de questions pour décider, et j'essaie de dire, qu'est-ce que tu répondrais à la question que tu me poses? Mettons-nous entre RH pour voir quelle est l'avis de chacun pour régler le problème. Aujourd'hui, si je voulais faire ça, il faut réserver une salle. Les salles sont souvent prises. Donc, en fait, on va réduire le nombre de postes de travail individuels, puisque les gens sont en télétravail au moins 2 ou 3 jours par semaine. On va augmenter le nombre de salles de réunion avec des tailles différentes et mieux équipées informatiquement pour l'hybride. Mais surtout, on va essayer de créer à tous les étages des espaces de créativité où va s'exprimer la force collective. On avait déjà identifié, mais c'était un lieu pour toute l'entreprise qui était réservable plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance. Il faut que ça soit un endroit de prise d'initiative où le manager dit « Allez, l'équipe, là, vous venez avec moi, on va régler ce problème et on se met autour de la table. »
Et en quoi ce réenchantement apporte une meilleure qualité d'équilibre, d'énergie? Alors, c'est de l'énergie collective qui est importante en complément de l'énergie individuelle, mais sur le sujet de l'épuisement professionnel, est-ce que finalement, vous ne rajoutez pas une sorte d'obligation à être toujours dans le collectif, à être dans une énergie de partage, là où on a besoin aussi de se ressourcer et de récupérer un
peu? Les deux, parce que de toute façon, les collaborateurs, alors c'est bien, ils prennent les 2 ou 3 jours de télétravail. Donc déjà, ils ont ces moments-là. Et donc, c'est pour avoir l'autre côté et avoir les deux. Moi, je crois que les deux sont très complémentaires. Et je crois aussi, toutes ces politiques, c'est de travailler dans l'espace, le lieu physique. Quel lieu, pourquoi faire? Et dans le temps, périodicité. On a fait le choix de dire ces 2 jours de présence sur site et environ 3 jours de télétravail, 100 jours dans l'année. Parce que ce qui est la problématique des RH n'est pas la problématique de la compta finance, qui n'est pas la problématique de l'informatique, qui n'est pas la problématique. Et donc, que ça soit un espace dans le lieu et dans le temps, en fonction des sujets qu'on a à traiter. Et c'est le manager de proximité qui peut organiser tout ça. Et le collaborateur, il aura des périodes de créativité et de force collective, et des périodes où il peut travailler de dossier de fond, il est chez lui, il n'est pas loin ou de la piscine ou de la forêt pour aller courir entre midi et 2 sans avoir à faire 1 heure de voiture pour rejoindre une forêt. Donc, je pense que là, on aurait les 2 facettes qui permettent de mieux gérer un équilibre et donc de prévenir tous les sujets d'épuisement.
C'est vraiment une vraie porosité, une vraie agilité du... J'aime bien parler des équilibres au pluriel, hein, équilibre vie pro, vie perso, des temps calmes, des temps forts, des temps individuels, des temps collectifs. Et c'est cette mixité, en fait, et cette diversité de situations qui peut permettre de trouver une certaine stabilité et de ne pas être que dans le travail, que dans l'énergie de la performance et de délivrer quelque chose. Peut-être avant de donner la parole à nos auditeurs et un dernier conseil, si vous vouliez transmettre quelque chose pour... voilà, quelqu'un qui s'interroge sur l'épuisement professionnel à titre perso ou de ses équipes, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait en tête, Delphine?
Moi, je voudrais rebondir. On a beaucoup parlé du regard des autres et de l'écoute active et bienveillante. Et je pense que c'est un des ingrédients et d'avoir autour des sentinelles qui peuvent repérer si un coéquipier ou un collègue monte des signes de fatigue et ne les voit pas nécessairement, c'est important. Mais moi, ce que j'ai appris en ayant vécu tout ça, c'est que j'ignorais complètement les sensations et les signaux que mon corps m'envoyait. Et donc, mon conseil, ça serait de dire mon corps ne ment pas, quoi. Donc, s'il m'envoie des tendinites à répétition, qu'il se passe des choses, de pas banaliser, en fait, de pas banaliser un mal de dos. Voilà, moi, j'avais tendance à me dire…
Ignorer,
je crois qu'on est marche ou crève. J'avais tendance à être comme ça. Et donc, depuis, je m'écoute un peu plus. Et c'est vrai que ça permet aussi de s'écouter et d'avoir des vrais moments de récupération et dans le temps. Parce que je crois aussi beaucoup à la performance durable sur la durée. Jean-Marie ?
Oui, je reviens sur les mêmes sujets, sur la prévention. Et c'est vrai, je pense à des migraines, je vais être très concret. Prendre un médicament parce que j'ai une migraine, ok, sur le moment, ça va soigner la migraine, mais je ne soigne que les conséquences d'un mal-être que mon corps m'a envoyé parce que j'ai eu injonction contradictoire, manque de période de pause, oubli que le corps humain, les neurosciences nous l'apprennent, le cerveau n'est pas à 100% de 7h du matin à 20h. Ça n'existe pas. Alors souvent d'ailleurs, on me dit au bureau, l'espace fumeur, on va à la terrasse, c'est génial parce qu'on fait une pause. Alors, il y a les fumeurs, mais je ne vais quand même pas me mettre à fumer pour pouvoir avoir un espace de pause. Donc faire des coupures entre les réunions, avoir des micro-pauses. Et maintenant, dans les bureaux, comme on peut installer n'importe quel petit jeu, ne serait-ce que 3 minutes, ça fait des coupures. Bref, tout ça pour dire que je pense que plutôt que d'essayer de soigner les conséquences graves qui peuvent être l'épuisement qui peut aller jusqu'au burn-out, même s'il n'y a pas une définition médicale précise, plus on va prendre en amont une alerte, plus c'est facile à corriger. Plus je vais la prendre trop tard, plus je vais devoir mettre un coaching d'accompagnement pendant 6 mois pour accompagner une personne à remonter sur le ring parce qu'elle est sortie du ring. Donc, plus il y a de la prévention et plus je prends tôt une situation de mal-être au travail, plus ça vient en épuisement, plus je prends tôt cette situation, plus je pourrai la corriger et la mettre sur les bons rails. Et c'est ce que j'aimerais m'appliquer à moi-même.
Bon, le coût humain et financier.
En plus.
Fabienne, dernier conseil ?
Dernier conseil. Alors, en tant que médecin du travail, ça va être effectivement la prévention, mais c'est ce que vous avez exprimé. Et la prévention passe beaucoup par l'information, la sensibilisation. Donc effectivement, mais là, vous l'avez dit, c'est informer au maximum nos collaborateurs, informer les managers. J'aime bien l'exemple du sentinelle. On est tous sentinelles de nos collègues. Effectivement, le plus difficile, ça va être l'apprentissage pour soi-même. Vous l'avez vu, on ne se voit pas et c'est les autres. Donc, le regard des autres et apprendre à se connaître, c'est repérer. Quels vont être ces signaux que va nous envoyer le corps, parce que ce n'est pas finalement le burn-out, c'est tout d'un coup le corps qui nous lâche, il y a une déconnexion complète qui se fait avec la tête, parce qu'on a maltraité notre corps, et donc notre corps nous abandonne. Et dans un deuxième temps, on en veut à ce corps qui nous a abandonné, c'est là où apparaît dans un deuxième temps la dépression, où on a une mauvaise image de soi. Donc vraiment faire cette connexion entre le corps et mental, et écouter effectivement ces émotions. Peut-être aussi un dernier conseil, c'est avoir des vrais moments, vous l'avez dit, de décompression pour pouvoir récupérer. C'est qu'il y a une réaction physiologique, donc on a besoin de ce moment pour recharger les batteries. À un moment, il n'y a plus de réserve, on voit que la chute est brutale, vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure. C'est, on ne le ressent pas, c'est-à-dire qu'on est dans une période de stress tellement importante, on est dans une période de lune de miel, on a l'impression de pouvoir tout gérer jusqu'à s'anesthésier au niveau de la douleur, mais la chute n'est pas progressive, la chute elle est brutale. On arrive en haut d'un ravin et puis là tout d'un coup on tombe et ça on ne voit pas venir.
C'est le compteur électrique qui dit j'en oui, qui dit bon ben là on stoppe.
Oui.
D'où l'importance de cet équilibre corps-cœur-cerveau.
Peut-être quelques questions. Je ne vois pas les messages à distance, s'il y a eu des messages, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires, il n'y a pas de questions non plus. Alors, ça va être très très clair. Si vous avez besoin de, de conseils ou d'éclairages complémentaires. Comme vous le savez, Bigood a publié un livre blanc sur l'épuisement professionnel. Il est disponible, vous pouvez nous le demander. Il est téléchargeable sur notre site et via nos réseaux sociaux. Donc, vous retrouverez à la fois des conseils d'experts, dont Fabienne, Pierre-Marie, un psychologue clinicien, quelqu'un d'autre qui témoigne, mais aussi des exercices pour faire de l'autodiagnostic et voilà, toute une 30 pages pour mieux comprendre et surtout mieux agir par la suite. La semaine prochaine, c'est la semaine de la qualité du travail. Donc, on va continuer aussi, nous, le travail de sensibilisation. Le 23 juin, on va faire une journée porte ouverte, plutôt écran ouvert, puisqu'en fait, on va faire une journée ouverte à tous pour pratiquer des exercices physiques, de méditation, une conférence sur le stress, voilà, beaucoup d'échanges au sein de Bigood pour que voilà, vous ayez, vous, vos collaborateurs, vos collègues, votre famille, une journée pour vous. Il n'y a pas de piscine, mais il y aura beaucoup de contenu. Merci à tous de votre attention. Merci
d'être. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ?
Bien sûr.
Oui, bonjour, excusez-moi, parce que j'étais en train de marcher quand vous aviez proposé de poser une question. Donc, je saisis la perche. Pierre-Marie, aussi, de Fortville. Très intéressant, merci. Ma question, c'est la suivante. J'essaye effectivement d'aménager des temps de pause dans ma semaine, avec du temps pour moi et tout. Ça, j'y arrive assez bien. Le seul sujet qui me paraît très, très compliqué, mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse, mais je ne sais pas s'il y en a, c'est il y a peut-être des gens qui sont faits avec un cerveau qu'ils arrivent à compartimenter entre le pro, on va dire, et le perso. Moi, je ne sais pas parce que je suis passionné par mon métier ou autre, mais je n'arrive pas à... J'ai beau tout faire, ce que vous voulez, la méditation, du yoga, du sport, du cardio, ce que vous voulez, je n'arrive pas à compartimenter mon cerveau, et c'est ça qui me c'est pas du, enfin, c'est toxique, et ça peut être toxique évidemment, mais c'est plutôt des sujets, on va dire, positifs, hein, parce que je suis dans une boîte en pleine croissance que j'ai créée il y a 5 ans, et mon vrai sujet, c'est plutôt l'adrénaline et de faire baisser cette adrénaline qui ne part pas même après des séances de temps perso. Enfin bref, c'est cette histoire de compartimenter le cerveau. Est-ce que c'est quelque chose c'est une notion qui est réalisable ou pas, quoi, ou est-ce que vous avez est-ce que vous avez des petits tips à ce sujet ?
Delphine, la to-do list est toujours présente. Des conseils, c'est difficile. Oui, la to-do list, elle est présente, mais le signal, c'est est-ce qu'elle va me tenir éveillée ou pas ? Est-ce qu'elle va me tenir en haleine ou pas ? Moi, j'ai le sentiment que lors des séances de méditation ou de sport, à force d'y revenir, parce que le chemin, il est pas évident, et je suis en apprentissage encore constant pour revenir au souffle et essayer, et via la sophrologie aussi, essayer de lâcher ce qu'il y a dans la tête pour revenir aux sensations du corps. Et il y a un petit cartoon, un petit dessin que j'adore, où il y a deux personnes qui se rencontrent et au-dessus de la tête de l'une, il y a un énorme truc plein de couleurs qui part dans tous les sens. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et « It's my mind ». Et effectivement, elle est pleine de couleurs, ça bouge dans tous les sens. Donc oui, ça s'agite là-haut. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est de revenir au corps. C'est vrai que, en tout cas, nous, les différents intervenants qu'on fait animer certaines conférences nous disent les moments de déconnexion passent par ce retour au corps, au souffle, à la respiration. Donc, c'est très difficile parce que forcément, le mental est toujours là à toquer à la porte pour dire « Coucou, t'as pensé au dîner de ce soir, t'as pensé à la préparation du rendez-vous client du lendemain. » Donc, se forcer, s'entraîner à penser à est-ce que mes pieds, quelle est la sensation de mes pieds sur le sol, quelle est la sensation de mes fesses sur la chaise. Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est vrai que ça permet au moins de donner une respiration et de donner plusieurs respirations. C'est important aussi avant de se coucher, par exemple, de faire de la respiration carrée, parce que le corps, on lui envoie, on reprogramme quelque part, on fait une reprogrammation neuronale en disant au cerveau, mon gars, c'est l'heure de te coucher. Donc, si c'est l'heure de se coucher, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran avant de se coucher, ça veut dire qu'on fait un peu de respiration, peut-être des lectures pour s'évader dans un roman, peu importe. Mais il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, on a une conférence sur la détox digitale ou sur le sommeil qui montre comment, quelque part, berner le cerveau pour lui dire, lui envoyer des signes que la reconnexion au corps permet de faire, de laisser le temps aux pensées dans la journée et au reste, notamment dans la soirée. Après, plus on essaye de chasser quelque chose, il revient. Donc, faut aussi accepter. Souvent dans les séances de méditation, on dit d'ailleurs que vous avez de l'agitation mentale, vous avez des pensées permanentes. Très bien, c'est pas grave, on va pas se rajouter de la charge mentale pour essayer de les faire sortir. En être conscient, c'est déjà un
Et c'est vrai que ça va être le choix aussi des activités, parce que moi j'avais tendance à aller vers des activités plutôt fortes en adrénaline, et je me suis rendu compte parce que j'ai pu expérimenter via Bigoud, donc la sophrologie, la méditation à un autre niveau, et aussi le yin yoga. Et en fait, c'était pas naturel pour moi de ne rien faire. Le non-agir et continue d'ailleurs à être compliqué par certains moments. Mais je me rends compte que c'est ça qui va vraiment commencer à m'amener une forme de tranquillité et qui va me permettre aussi de lâcher les ruminations. Donc, je pense qu'il y a une histoire aussi de choix des activités. Et c'est vrai que quand on est quelqu'un dans l'adrénaline énergique, moi j'avais tendance à aller choisir des activités comme ça, alors qu'à l'inverse. Voilà, des activités un peu plus tranquilles, c'est
un conseil de médecin. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement accepter le fameux lâcher prise, hein, c'est-à-dire de rien faire, de rester là dans l'instant présent et prendre les choses comme elles arrivent et puis être content de la manière dont ça arrive. On se rend compte qu'on se pollue souvent l'esprit par rapport à ce qu'on aurait dû faire ou en disant ce que je dois faire, et finalement on n'est pas dans l'instant présent et on est déjà épuisé à gérer notre instant présent par rapport à l'ensemble des ruminations qu'on a eues. Finalement, je dirais ce fameux lâcher prise, mais qui s'apprend. Ça qui est compliqué, c'est que notre éducation même fait qu'on ne s'autorise pas à avoir ce fameux lâcher prise, qui ne veut pas dire ne rien faire, mais d'être là maintenant dans l'instant présent en pleine conscience.
Je vais juste plus loin, chercher à compartimenter, c'est se planter. Il ne faut pas chercher à compartimenter. Tout est interaction entre vie privée et vie pro. Il faut accepter, il faut le gérer, il faut se faire des temps de respiration, cœur, corps, cerveau. Mais essayer de compartimenter, je ne connais pas quelqu'un qui a réussi à le faire. Présentez-moi quelqu'un qui sait le faire, je suis content de le rencontrer.
Bienvenue au club.
Merci.
Bonjour. Bonjour Agathe Sultan, je suis naturopathe et formée en micronutrition. Je voulais juste rajouter sur le retour au corps qu'effectivement, il y a des techniques de retour au corps qui vont être la méditation, la sophrologie, le yoga. Mais il faut aussi que le corps ait ce dont il a besoin pour fonctionner. Et vous avez parlé, monsieur, de nutrition. Il y a la micronutrition aussi qui est importante, mais la nutrition est fondamentale et la micronutrition aussi. Si le corps est carencé en magnésium, il ne va pas réussir à trouver ce chemin de l'apaisement et du calme. Et quand on est stressé, en fait, il y a naturellement, physiologiquement, des fuites de magnésium urinaire. Donc, en fait, les gens stressés sont carencés en magnésium. Donc, notamment sur ce micronutriment-là, s'il n'y a pas des apports conséquents, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent. Ce sera très compliqué de retrouver du calme sur le plan physique. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut le nourrir, ce plan physique. Pas que par des pratiques, il se nourrit aussi par l'intérieur et l'importance de notre alimentation est fondamentale et parfois il faut complémenter aussi. Il y a évidemment aussi les vitamines du groupe B, enfin voilà, il y en a beaucoup d'autres, mais il faut aussi que le corps ait ce dont il a besoin pour fonctionner.
C'est ça ?
J'ai pas entendu Laetitia.
La plaquette de chocolat noir ?
Ça peut être la plaquette de chocolat noir, mais ça ne va pas suffire s'il y a une grosse carence en magnésium. Mais oui, souvent, il y a des pulsions souvent, les pulsions alimentaires qu'on a traduisent aussi, évidemment, des carences et des besoins du corps. Hein. Donc, tout comme les symptômes dont parlait Delphine tout à l'heure, tous les symptômes que le corps exprime sont des signaux d'alerte sur ces dysfonctionnements métaboliques. Donc, plutôt que de juste les faire taire, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, sur quoi ils interpellent.
Merci. D'autres questions ou remarques pour finir ? Merci à tous, merci à vous trois de ces témoignages, de ces conseils précieux. Prenez soin de vous, évidemment, et puis on est à votre disposition si vous avez besoin de creuser un peu ces sujets. Très belle journée.
Merci. Au revoir.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Merci.